sur la première. Entre nous soit dit, Mélanie Kroubalian.
Bonjour à tous. Qu'est-ce que la politique? Ou plutôt, qu'est-ce qui est politique? Les élections, les campagnes présidentielles, les lois, le Parlement, les ministres, les gouvernements, rien de bien croustillant que du sérieux, du rationnel, du pragmatique. Pas d'histoire à raconter. Vraiment? En y regardant de plus près, le monde de la politique semble pourtant profondément romanesque, voire littéraire. Une maîtresse déçue et déchue, une liaison cachée, une carrière brisée nette par un élan bestial dans une chambre d'hôtel à New York, une stagiaire très zélée, question histoire, petites histoires, on est servi. Et les femmes et hommes politiques ne sont pas les seuls à arpenter les pages du dernier livre de mon invité de ce jour, dans des décors aussi variés que la librairie d'Ophélie, un stade de foot au Brésil, l'Élysée, la planète Mars ou le café de Flore, Sarkozy, DSK, Clinton et Ségolène, croisent Vladimir Nabokov, Benoît XVI et Simone de Beauvoir. De quoi faire un beau roman qui peut être lu d'une traite ou butiné par petites touches anachroniques. Bonjour Philippe Sellers.
Bonjour.
Vous êtes en direct, en duplex, de notre studio à Paris. Le titre de ce livre, c'est « Littérature et politique ». C'est un épais volume qui vient de paraître chez Flammarion et où on croise alors notamment ces personnages que j'ai mentionnés, mais bien d'autres encore, énormément de personnages réels. C'est en fait le recueil de vos chroniques qui sont parues dans le journal du dimanche, une fois par mois, pendant des années, et dans Le Point aussi. Alors pour vous, Philippe Sellers, qu'est-ce qui est politique ?
Ce qui est politique, c'est de la fiction, parce qu'on vous raconte beaucoup de choses et jamais vous ne pouvez voir ce qu'il y a derrière. Il y a une seule façon d'apprécier la politique, c'est la fameuse formule de Balzac, vous savez, qu'est-ce que l'envers de l'histoire contemporaine ? Et là, vous venez de le préciser, il y a des passions constantes, des accidents mortels, des baisses de popularité impressionnantes, tout ça à cause des passions que vivent dans le secret ou dans la clandestinité les hommes politiques. D'une part. D'autre part, la politique de plus en plus décrédibilisée, ça c'est très inquiétant, parce que quand il n'y a plus de pouvoir politique, ça, on sait très bien à quoi ça mène, c'est-à-dire à des tyrannies diverses, à des dictatures, etc. Et ça s'est déjà produit en Europe, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et donc, la politique, vous savez, c'est quand même le paravent du capitalisme financier, qui est désormais planétaire, mondial, etc. Que devient la politique dans une mondialisation où vous ne savez pas, au moment même où je vous parle, combien de milliards de dollars ou d'euros sont en train de disparaître quelque part, tout près, au Luxembourg, ou dans les îles Caïmans, ou aux îles Vierges, etc. Par conséquent, il faut deviner. Pour deviner, il faut une certaine imagination, et l'exergue que j'ai mis dans ce livre, c'est de François Mauriac, qui, à mon avis, a été un remarquable analyste politique. Il n'y a qu'à relire ses bloc-notes, qui sont absolument merveilleux. Je prendrai la politique, je l'appellerai
littérature. Je
l'attiserai
littérature et elle le deviendra aussitôt.
Aussitôt. Et c'est en effet, c'est la lucidité des écrivains. Donc, si vous avez votre bibliothèque, et si vous continuez à lire, ce qui est de plus en plus improbable dans la mesure où on sent une perte de lecture généralisée, si vous gardez ce muscle de la mémoire et de la lecture, vous pouvez faire sortir de la bibliothèque exactement ce qu'il faut sur telle ou telle situation. Par exemple, vous sortez Mauriac et vous lisez sa définition de la croix gammée très tôt, hein, une araignée gorgée de sang. Ça parle, parce que si vous voyez une croix gammée, des hurlements autour d'une croix gammée, vous ne songez pas forcément à une araignée gorgée de sang, sang noir. Bon, et alors, ça parle. Si vous ne lisez pas les écrivains, comment voulez-vous savoir ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire 1914-1918, toute l'année, vous avez eu des commémorations, vous avez eu des images, vous avez eu des gens que vous voyez courir comme des rats dans les tranchées, cette énorme boucherie dans laquelle, dans le souvenir de laquelle nous vivons encore et qui a provoqué une catastrophe en Europe. Hein, c'est le suicide de l'Europe, d'une certaine façon, sans parler de l'autre suicide qui est venu de la part de Staline. Alors, si vous n'avez pas lu, et si vous n'avez pas en mémoire, par exemple, Le voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, vous ne pouvez pas comprendre le vécu intime de ce qu'a pu être cette guerre. De même, vous ne pouvez pas envisager le mois du monde, de savoir, vous avez des documents, les historiens font leur travail, mais ça n'est pas ça qui compte. C'est la façon dont une sensibilité particulière participe aux événements et les voit de l'intérieur, d'une certaine façon. Par conséquent, si vous prenez la guerre d'Espagne, vous ne pouvez absolument pas vous passer de Hemingway, par exemple, qui était, sans parler du film Pour qui sonne le glas, vous voyez. Mais tout ça, c'est de la littérature, etc., etc., etc. Sur chaque cas, vous avez la littérature qui peut donner son avis, y compris sur la guerre d'Algérie, qu'il était interdit d'appeler la guerre. Là, vous avez encore, on retombe sur Moria, la torture, vous avez à ce moment-là quelque chose qui surgit dans l'ombre, qui est le Front National, et qui va, ces temps-ci, via des prêts de banques russes, solliciter votre attention par rapport à ce qui est en train de se passer dans ce pays. Vous comprenez, sur tous les sujets, c'est-à-dire les sujets fondamentaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle le populisme, d'un mot qui ne convient pas, mais la montée en ce moment de l'extrême droite, pour l'appeler par son nom, en France, et pas seulement en France, en Europe, vous avez là quelque chose qui est tout à fait important. Prenez le prix Nobel de littérature donné à Patrick Modiano. Pourquoi ? Parce que la déclaration du prix Nobel à Stockholm, il a décrit l'atmosphère de l'occupation nazie en France. Patrick Modiano est né en 1945, mais c'est vrai que tous ses livres tournent autour de ce trou noir, de cette espèce de décombre dans la mémoire, vous voyez. Donc, à chaque instant, la littérature vous en dit plus, tout en vous disant quelque chose qui n'est pas, en général, révélé.
Littérature et politique, on est en plein dedans, Philippe Sellers, on parlait au tout début, enfin je parlais au tout début de cette émission, de la politique qui peut devenir littérature. L'inverse est vrai aussi, vous venez de nous le démontrer brillamment. Et c'est très drôle aussi de lire ce recueil en grappillant des morceaux par-ci par-là. Je me suis aussi amusée en le lisant, surprise même, en lisant à faire se croiser des personnages qui seraient bien incapables de se croiser. Je ne sais pas, je pense Malraux et Zidane par exemple, parce qu'ils se trouvent tous les deux dans votre livre. On peut imaginer aussi plein d'histoires, et ça, c'est tout à fait plaisant. Vous commencez par parler de...
Vous pouvez mesurer que, par exemple, il y a eu en France, il n'y a pas si longtemps, un ministre de la Culture qui non seulement savait lire, mais était écrivain. C'est André Malraux, vous venez de prononcer son nom. Alors, comme vous le savez aussi bien, nous avons une ministre de la Culture, Fleur Pellerin, qui récemment a dit qu'elle n'avait pas le temps de lire, elle ne se rappelait pas le titre du livre de Patrick Modiano qui venait d'avoir le prix Nobel. Vous voyez, c'est-à-dire, ça va à toute allure. Malraux, c'était quand même... Alors là aussi, c'est Malraux, si vous n'avez pas lu L'Espoir, on revient toujours sur la guerre d'Espagne et qui a été un déclencheur considérable. Pensez que le chef-d'œuvre de Picasso, c'est Guernica, et donc ça vaut aussi pour la peinture. C'est-à-dire que chaque fois, il y a quelque chose qui surgit, qui désoriente dans un premier temps. Par exemple, Guernica de Picasso a été très mal reçu par les républicains espagnols, parce que ça ne servait pas la cause du prolétariat. Donc, est-ce qu'il faut que la littérature soit sociale, socialement engagée? Qu'est-ce qu'elle doit respecter, ne pas respecter? La question, c'est tous les
est-ce
jours,
qu'elle peut ne pas l'être? C'est ça la question.
Est-ce qu'elle peut être libre et indépendante? Est-ce qu'il faut la canaliser? Est-ce qu'il faut mettre des compresses atténuantes sur le Marquis de Sade, dont vous avez une exposition en ce moment en France pour le bicentenaire de sa mort? Tous les cas d'écrivains lorsqu'il mérite vraiment ce nom, hein, sont des cas politiques. Prenez Solzhenitsyn, c'est un écrivain qui, pour la première fois, vous parle du goulag. Je ne sais pas ce qui est devenu Solzhenitsyn. Tout le monde... c'était pas évident que ça puisse sortir, mais ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impression. On a tendance à l'oublier. Je ne sais pas si c'est pour faire plaisir à Poutine qu'on ne parle plus de Solzhenitsyn, mais c'est assez grave quand même. Donc il faut cette façon de s'intéresser à la politique à travers la littérature, hein, pour que ce soit la littérature qui juge de la politique en disant la vérité cachée, la vérité dissimulée. Et c'est pas seulement des questions de scandale, c'est la nervure intime de la façon dont les politiques vivent la vie.
On apprend énormément de choses en lisant votre livre, Philippe Solers. On découvre, alors Solzhenitsyn, dites-le à ma place parce que moi j'ai quelque chose avec Solzhenitsyn. Il y a aussi Beauvoir. Moi j'ai été très surprise en découvrant ce que vous dites sur Beauvoir. Et j'ai envie de lire maintenant un extrait sur la correspondance de Beauvoir. C'est tout à fait surprenant quand vous la citez, vous dites ça.
C'est une excellente épistolière. Elle n'est jamais meilleure que lorsqu'elle écrit à Sartre ou à Nelson Algren, qui a été le grand amour de sa vie.
C'est très surprenant. Je peux lire un petit extrait, comme ça on va vraiment comprendre ce qu'elle écrivait. Et c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on la voit d'habitude. Les lettres à Nelson Algren avaient déjà étonné. Mon mari, mon petit crocodile. Mais il y a plus précoce et tout aussi étourdissant. Le tout cher petit Bost, le petit Bost bien-aimé. Avec Beauvoir, les hommes sont toujours petits. Ce sont ses amants enfants. Elle est très sérieuse avec eux, mais aussi débordante de fantaisie et de tendresse. Au temps de Bost, elle a 30 ans, lui, 21. Il a été l'élève philosophique de Sartre, qui est en train de devenir célèbre avec la nausée. Elle est prof, elle écrit un roman. Ils commencent par marcher beaucoup ensemble en montagne, ils parlent à n'en plus finir, et un soir, ils basculent ensemble dans une grange. Beauvoir écrit ainsi à Sartre le 27 juillet 1938. « Il m'est arrivé quelque chose d'extrêmement plaisant et à quoi je ne m'attendais pas en partant, c'est que j'ai couché avec le petit Bost voici 3 jours, naturellement, c'est moi qui le lui ai proposé. Ils vont rester clandestins toute leur vie pour ne pas peiner la femme de Bost, et ceci entraînant peut-être cela, il s'agit d'une passion continue, réciproque. Bost, qui est assez vite mobilisé, lui raconte sa vie de caserne, ses lectures, et puis « Je vous serre dans mes bras et je vous embrasse de toutes mes forces ». Beauvoir, on ne s'en doutait pas à ce point, est beaucoup plus expansive. « Vous dormez en ce moment, petit Bost bien-aimé, et je peux bien imaginer comme vous êtes, tout entortillé dans le duvet, avec un calme beau visage. » C'est dingue, hein, c'est vraiment Simone de Beauvoir qui a écrit ça, Philippe Solers, c'est vous qui l'a cité.
Et bien sûr, et c'est ça, j'insiste beaucoup sur le fait que Simone de Beauvoir, comme c'est arrivé à beaucoup de gens qui se sont occupés de politique, sont transformés en icônes et en chefs de partis idéologiques, vous comprenez ? Donc c'est le féminisme qui a réduit Beauvoir à cette figure, certes très importante, le Deuxième Sexe a été un livre très important, bien entendu, mais ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie, l'existence, l'existentialisme, si vous voulez, de ces personnages hors du commun, très libres, parce que vous avez cité en effet les lettres à Bost, mais les lettres à Sartre aussi sont étonnantes de diffusion. Ça a été finalement le grand homme, le grand petit homme de sa vie. Oh, vous avez donc une bonne petite tête philosophique, mon cher petit, vous allez me faire un beau petit système, etc. Ce sont des lettres extraordinairement tendres et le summum, c'est les lettres à son américain là où son corps a repris une dimension de désir, c'est-à-dire qu'elle avait besoin de cela sans abandonner Sartre pour autant, qui est son amour intellectuel absolu. Mais enfin, les lettres à Nelson, très bien traduites d'ailleurs par Sylvie Le Bon de Beauvoir, sont une révélation. Il y a mon petit crocodile, etc. Mais il y a des choses épatante. Vous n'êtes pas obligé de vivre comme un moine, mon cher.
Vous devriez plus vous amuser.
Vous pouvez vous détendre. Tiens, vous pourriez lire Casanova. Voilà quelqu'un qui aimait les femmes. Sans les mépriser, etc. Donc, elle est en train à ce moment-là de d'écrire quelque chose qui va devenir le Deuxième Sexe, où elle parle beaucoup des écrivains. Donc, c'est-à-dire du machisme des écrivains qu'elle pointe du doigt. Mais alors elle a des favoris, c'est Stendhal, c'est Casanova qui avait en effet cet art de vivre et qui était en même temps politique, vous voyez.
on n'en sort pas.
Alors on a transformé Sartre et Beauvoir en il faut dire qu'ils ont un peu exagéré leur engagement, etc. Parce que en 1954, déclaré comme Sartre l'a fait, la liberté de critique est totale en URSS, évidemment, c'est complètement dément. Bon, mais et puis Beauvoir est beaucoup plus sensible. Vous les prenez tous les deux à Venise, par exemple, et vous voyez que Sartre, qui a des hallucinations négatives à Venise, il ne peut pas supporter Venise, alors que Beauvoir, au contraire, est très sensible à la façon de vivre des uns et des autres, etc. Quand elle écrit au présent, ses mémoires, elle est souvent au passé simple, et ça ralentit son écriture, bon, parce qu'elle raconte après coup, mais les lettres, c'est vraiment... écoutez, vous avez deux grandes épistolières en français, c'est étrange, mais c'est comme ça, c'est la marquise de Sévigné et Beauvoir.
Vous parliez de Venise à l'instant, Philippe Soler, c'est l'objet de l'autre livre qui ressort en fait en version illustrée, un peu abrégée, Dictionnaire amoureux de Venise, donc illustré, qui est paru chez Flammarion. Magnifique photo et magnifique peinture, reproduction.
Ah oui, c'est
peinture.
Très beau. Oui.
On peut aussi feuilleter ce livre de vous en ce moment, Philippe Soler, c'est pourquoi pas l'offrir à Noël à ceux qu'on aime et à ceux qui aiment Venise, comme vous. Alors, c'est de vous qu'on va parler aujourd'hui, après avoir parlé des personnages de votre livre pendant de nombreuses minutes. On va parler de vous comme personnage, et vous en êtes un aussi, on peut le dire. Philippe Soler, on va aborder votre parcours juste après avoir écouté « Je danse avec la neige » cette saison.
Dans un monde de surprise et de magie incroyable. Dans le ciel, la lune grande me regarde avec un sourire. Je danse avec la neige, je danse avec la neige. Les étoiles brillantes ne sortent pas ce soir. Je danse avec la neige, je danse avec la neige. Je danse avec la nuit. Je chante à haute voix. Je chante à haute voix pour vous joindre à moi.
Elle s'appelle Amy Servini. Elle chante en français avec ce charmant accent. Je danse avec la neige. C'est le choix de Nathalie Schoenberg pour vous accueillir dans cette émission. Philippe Solers. Littérature et politique, c'est le livre que vous venez de sortir chez Flammarion. Il y a aussi le dictionnaire amoureux de Venise qui est déjà sorti il y a quelques années. Mais là, c'est la version illustrée et abrégée. Magnifique version. On va parler de vous, Philippe Solers, avec cette voix. Voyons si vous allez la reconnaître.
Je ne me prétends pas poète. Je crois ma vision fort commune. Étant donné une chose, la plus ordinaire soit-elle, il me semble qu'elle présente toujours quelques qualités vraiment particulières sur lesquelles, si elles étaient clairement et simplement exprimées, il y aurait opinion unanime et constante. Ce sont celles que je cherche à dégager. Quel intérêt à les dégager ? Faire gagner à l'esprit humain ses qualités, dont il est capable, et que seule sa routine l'empêche de s'approprier. Quelles disciplines sont nécessaires au succès de cette entreprise ? Celle de l'esprit scientifique, sans doute, mais surtout beaucoup d'art. Et c'est pourquoi je pense qu'un jour, une telle recherche pourra aussi légitimement être appelée poésie. L'on apercevra dans mes poèmes donnés comme exemple, quels importants déblais cela suppose ou implique, à quels outils, à quels procédés, à quelles rubriques l'on doit ou l'on peut faire appel. Au dictionnaire, à l'encyclopédie, à l'imagination, au rêve, au télescope, au microscope, aux deux bouts de la lorgnette, au verre de presbyte et de myope, au calembour, à la rime, à la contemplation, à l'oubli, à la volubilité, au silence, au sommeil, etc., etc.
Nous sommes en 1949, Philippe Solers.
Oui, oui. Écoutez, évidemment, c'est Francis Ponge qui était un très grand ami et dont vous venez d'entendre la voix, qui ça m'émeut beaucoup parce que j'ai passé des heures et des heures avec lui et je peux considérer que j'étais en quelque sorte dans son atelier, comme on disait autrefois des peintres. Et c'était quelqu'un de très, très scrupuleux, de très énergique. Le parti pris des choses ou le carnet du bois de pain, jamais vous ne lirez une description de l'abricot ou du mimosa ou de la lessiveuse. Avec cette invention admirable qui l'a mis dans une position tout à fait marginale par rapport à la société. Lire Ponge, ça a mis très longtemps à être reconnu. C'était pas du tout évident à l'époque, malgré un article de Sartre très important. J'ai fait ma première conférence à l'âge de 22 ans à la Sorbonne sur lui, ce dont il m'a été très reconnaissant. Et puis après, nous avons commencé à parler sans arrêt chez lui, rue Laumont, je m'en souviens. Et nous parlions beaucoup des poètes latins, de Lucrèce par exemple. Ou alors, il s'intéressait à la musique et sur un électrophone, je lui apportais des disques de Rameau, qui était son musicien préféré. Tout ça a l'air d'être un monde englouti, mais pour moi, c'est un souvenir absolument lumineux et qui, vous voyez, à mes yeux, est une présence totale. Il suffit d'écouter la voix, la façon de parler, l'écouter lire ses textes, c'est absolument magistral.
Une théorie assez moderne sur la poésie, sur comment on peut créer.
Bien entendu, la poésie, c'est pas la poésie des poètes, du lyrisme, du romantisme, c'est autre chose, c'est une activité, vous voyez, qui doit vous sortir de ce qu'il appelle la routine. La routine, ça, il n'y a rien de pire. La routine, l'habitude, la résignation dans les gestes à faire tous les jours, c'est, là, vous ne voyez plus rien, vous ne voyez plus un verre d'eau, vous ne voyez plus la pièce où vous êtes, vous ne voyez plus le moindre arbre, et vous êtes comme ça. C'est ça qui menace, n'est-ce pas ? Quand vous voyez les hommes politiques et leur absence de lecture. N'oubliez pas que ça a commencé par le nouveau venu qui est Nicolas Sarkozy, qui essaye de revenir, qui a décidé un jour de dire que la princesse de Clèves, ça servait à rien. Bon, alors là, bon, après il a déclaré que Fabrice Del Dongo, dans La Chartreuse de Parme de Stendhal, était un gigolo. Bon, très bien. Après, on lui a demandé quel livre lui tombait des mains. Il a dit Les Liaisons dangereuses de Laclos. Vous voyez qu'avec tout ça, on va faire un puissant parti politique. politique. Ouais. Voilà. Donc, vous savez, comme vous savez, le président Hollande n'a pas le temps de lire un seul livre, etc. Par rapport à cette décadence, le mot n'est pas assez fort, à cette déliquescence qui vous est proposée comme politique, vous avez quand même, vous avez eu des artistes, des acrobates de la lecture. Je ne parle pas de De Gaulle, ça va de soi, puisque son ministre était Malraux. Mais même, allons-y, Mitterrand, qui quand même mettait un point d'honneur à faire comme s'il lisait. Il allait à la librairie Gallimard, acheter des beaux papiers, etc. Bien entendu, il lisait Julien Gracq, c'est pas mal, ou Chardonne, c'était son préféré, ou Drieu-La Rochelle, voilà. Mais enfin, il passait pour être cultivé. N'oubliez pas que le président Mitterrand s'est fait photographier avec les essais de Montaigne à la main, hein, enfin ouvert devant lui, comme s'il le lisait. Ce qui fait que dans tous les commissariats, peut-être que voilà, le Montaigne toisait les tabassages qui pouvaient avoir lieu dans les commissariats. C'était paradoxal. Montaigne, c'est la sagesse même, c'est le pays d'où je viens, c'est-à-dire Bordeaux, etc. Vous comprenez ? Ça avait quand même une autre allure, si vous me permettez.
Quand vous parlez justement de Sarkozy, vous dites, le président, nous venons de le constater, nous sommes en 2007, a augmenté ses références littéraires qui jusque-là se limitaient bizarrement à Voyage au bout de la nuit de Céline et à Belle du Seigneur d'Albert Cohen, deux livres entre lesquels pourtant le goût le plus élémentaire exige de choisir.
Oui, ben, oui, voilà, un coup à droite, un coup à gauche, enfin comme ça, un coup à l'extrême droite supposé de l'abominable Céline, et on rétablit les choses avec Albert Cohen. Voilà, bon. Mais littérairement, ça n'a rien à voir. Ça prouve simplement une petite manœuvre politicienne qui est fréquente chez cet artiste de retour.
Vous rencontrez, je crois, Francis Ponge à l'Alliance française, si mes renseignements sont bons. Et je crois même que c'est grâce à lui, finalement, Philippe Sellars, que vous entrez vraiment dans les milieux littéraires parisiens.
Pas vraiment. Enfin, j'ai beaucoup de rencontres. J'ai connu beaucoup d'écrivains parce que j'étais à la recherche de dialogue avec eux. J'ai fondé une revue, une petite revue qui a eu beaucoup d'influence. Et j'allais interroger très jeune tous les hommes, les grands hommes qui existaient encore, parce qu'aujourd'hui ça serait compliqué. Tout ça s'est effondré, est en cours d'effondrement. Vous comprenez, quand on est allé voir Rue Fontaine, André Breton, bon, l'atmosphère était absolument magique. C'était le grand André Breton du surréalisme. Quand je voyais Aragon, c'était aussi un survivant pour moi de sa période géniale qui a été sa période surréaliste. Mais Aragon finissait par être ennuyé parce qu'il vous déclamait ses poèmes sans attendre que vous ayez pu placer un mot. Et là, en plus, vous auriez pu aller prendre un verre et vous seriez revenu. Il aurait continué à lire ce poème dans votre absence. Voilà. Et puis, il y avait Elsa Triolet qui était vraiment, qui jetait un froid dans tout ça, plus l'histoire du Parti communiste, etc. Bon, Georges Bataille, vous comprenez, qui était vraiment un génie absolu pour moi.
Mais pardon de vous couper, Philippe Sellars, mais vous étiez tout jeune, vous le disiez, vous fondez cette revue telle quelle, c'est en 1960. Oui. Comment vous est venu le goût d'écrire quand vous étiez enfant ?
Oh ben, oui, enfant, comme a dit quelqu'un, il faut commencer au berceau, sans quoi c'est trop tard. C'est par la lecture, vous savez. C'est par la lecture. La lecture, on se jette dedans et on apprend à nager et on apprend en même temps à écrire. Pour savoir écrire, il faut avoir lu et savoir lire. Je crois que c'est ça le fond de la question. Et donc, je me procurais des livres, je les lisais avec une intensité particulière. Ça a été la poésie, surtout, qui m'a amené à ça. C'était Baudelaire, vous comprenez ? C'est-à-dire, le Baudelaire a été un choc considérable. C'est un des plus grands poètes français, sinon le plus grand. Et puis ensuite, Rimbaud et les autres.
Vers quel âge vous le découvrez, Baudelaire ?
Baudelaire, c'est très tôt, 13-14 ans. Je reste ébloui. Oblibre, toujours, tu chériras la mer. Voilà, bon. Ou alors, le vert paradis des amours enfantines. Voilà, les courses, les chansons, les baisers, les bouquets, les violons vibrants derrière les collines, avec les brocs de vin le soir dans les bosquets. Bon, ça, c'est les mots. Voilà, vous parliez de Ponge, c'était quelqu'un d'extraordinairement sensible aux mots. Mettre un certain nombre de mots ensemble, et un paysage enchanté, et la vie enchantée, en découle. Les courses, les chansons, les baisers, les bouquets. Vous voyez ces quatre mots. Mmh. Tous les sens sont convoqués. Vous avez un corps qui vibre de partout, comme les violons derrière les collines, et vous avez un corps. Ça vous donne un corps imaginaire, mais un corps d'une grande, grande puissance, et ça vous met dans un état de résistance par rapport à ce qu'il faut bien appeler le roman familial, le bavardage psychologique, voire désormais le bavardage social et politique. Hein, voilà. C'est la poésie qui vous sauve, qui vous tend la main si vous l'écoutez.
Vous avez dirigé pendant longtemps la collection L'Infini chez Gallimard. Alors là, dans ce que vous dites, on sent, c'est peut-être un peu exagéré, mais on sent que c'était mieux avant. En tout cas, il y avait beaucoup plus de grands écrivains aujourd'hui. Vous avez parlé de déliquescence en politique notamment. Et pourtant, vous éditez des auteurs régulièrement, Philippe Sellers. Donc ça veut dire que tout n'est pas perdu.
Rien n'est perdu, il suffit qu'il y ait des singularités qui émergent, et là, il y en a un certain nombre que j'édite, mais je trouve que c'est très difficile pour quelqu'un de jeune, aujourd'hui, de trouver sa voie et d'avoir le temps de la trouver. Tout va très vite, et un auteur qui a 20, 25 ans, et qui n'aurait pas du tout de succès tout de suite, risque de voir sa vie décliner, et sa production décliner aussi. Donc, vous voyez, les conditions sont beaucoup plus difficiles. Moi, à cet âge-là, j'étais magnifiquement libre, j'étais étudiant, j'avais pas d'argent, je lisais, j'étais sûr que ça allait me mener là où je voulais être. Mmh. Et il y avait, au fond, une façon de culpabiliser tout le monde sur l'absence de lecture, l'ignorance, etc. C'était encore ce temps-là. Maintenant, vous ne culpabilisez plus personne, c'est l'argent, un point, c'est tout. Et alors, il y a quand même quelques écrivains. Vous êtes chez Gallimard, vous avez des prix Nobel comme Le Clésio en 2006, Modiano aujourd'hui. Bon, il y a quand même quelque chose qui tient le coup. Et puis surtout, vous avez un fond considérable, c'est-à-dire la Pléiade, par exemple. Vous prenez la dernière Pléiade, c'est François Villon. Vous allez être ébloui par les balades en jargon de Villon, qui n'est pas un auteur de ces derniers jours.
Pas tout récent.
Et puis vous avez tout ce trésor qui vous appartient. Vous prenez la dernière Pléiade, par exemple, de Michel Léris, dont personne ne va vous parler vraiment. Mmh. Eh bien, c'est un chef-d'œuvre. Quand vous lisez, vous ouvrez l'Afrique fantôme ou l'Âge d'homme. Vous apprenez l'Âge d'homme qui a influencé Sartre lorsqu'il a écrit les mots. Enfin, vous êtes dans cette continuité souterraine où, en effet, l'émergence de nouveaux talents, parce qu'il n'y aura pas le temps, parce qu'ils n'auront pas le temps de vivre vraiment à fond. Vous avez quand même Houellebecq, qui par exemple, enfin, qui a surgi et qui s'est imposé pour parler de la misère sexuelle du temps. Je suis aux antipodes de ce qu'il peut faire.
C'est vrai.
Mais c'est très maîtrisé quand même. C'est un très bon professionnel.
Vous écrivez aussi sur lui d'ailleurs dans Littérature et Politique. Et puis vous écrivez un tout petit article que j'aimerais lire qui pourrait peut-être donner des vocations, qui donne en tout cas envie d'écrire des romans et qui s'intitule justement « Roman ». Et vous dites ça. « On travaille 3 ans en douce à un roman. Il vous a suivi partout, le jour, la nuit ». En rêve. La fin s'annonce, les scènes et les dialogues d'adieu s'organisent, 2 personnages doivent se rencontrer dans un restaurant et laisser leur aventure en suspens. Voici la dernière phrase. Elle va s'éloigner, rejoindre la première, là-bas. Un matin, très tôt, alors qu'il pleut violemment dehors, on boucle le manuscrit et on sait que la seule chose à faire est d'en commencer aussitôt un autre. Le titre ? Trouvé. La première phrase ? Ça, c'est le plus dur. Il faut la laisser venir et s'imposer d'elle-même. Le reste suivra.
Agitata da dove venti
Agitata da due venti, c'est le titre de cet extrait de Griselda, un opéra de Vivaldi, avec, bien sûr, vous l'avez reconnu, Philippe Sellers, vous l'adorez.
Cécilia, oui, Cécilia. C'est à la boue.
Bartoli.
Vous venez d'entendre, alors nous sommes à Venise, elle est en train de chanter le musicien clé de Venise, c'est-à-dire Vivaldi, le prêtre roux, comme on l'appelait, c'est un prêtre assez étrange, qui a composé une musique magnifique. L'autre grand musicien de Venise, c'est Monteverdi, bien sûr, et elle est inouïe. C'est un amour, et vous avez entendu passer un vent de liberté considérable qui, dans le studio où je suis, a illuminé le studio. Je vois des immeubles blanchâtres au loin, ils sont illuminés aussi, tout le monde dort ou est dans une vie ralentie, et là vous avez tout simplement le spectre plus vivant que les vivants de la liberté, en train de ravager tout ça avec une intensité, un souffle, une précision dans les syllabes. Vous avez entendu, c'est une Italienne, elle a commencé à chanter vers l'âge de 12 ans. Vous prenez les musiciens, elle ne veut pas dire qu'on dise qu'elle est chanteuse. Non, elle est musicienne. Elle est musicienne parce qu'elle sent de l'intérieur, elle se traite elle-même comme un instrument à travers les autres instruments. C'est pas le romantisme de la diva genre Callas, vous savez, qui est sur le devant de la scène et qu'on célèbre, etc. Pas du tout. Elle, c'est un sport. Il faut la voir déclencher son orchestre en tapant du pied comme si elle était la partie prenante d'un orchestre de jazz. Oui. Elle est absolument incroyable. Vous avez remarqué comme elle prononce le R roulé, mm-hmm. qu'une Américaine ne pourra jamais faire. Le naufragar, elle raconte une histoire de tempête. C'est génial, il faut bien le dire. Mm. En plus, c'est une femme adorable, qui est très, très, très simple, qui exhume des partitions, qui fait des recherches, qui fait chaque fois des performances. Moi, je l'aime, tout simplement. Et je trouve... Vous savez, quand elle a proposé Vivaldi, tout le monde était un peu sur la réserve, etc. Puis ça s'est vendu à 100 000 albums, je sais plus quoi. Elle a obtenu un triomphe. Et partout où elle chante, elle suscite évidemment une stupéfaction et un bonheur d'exister qui sont très rares. Elle est très drôle, très simple, extrêmement énergique et tout à fait détachée en même temps. C'est ça le génie.
Et c'est un génie qui vous a illuminé à Paris, qui nous a illuminé ici. C'est pas Dominique Stalder qui a reconnu immédiatement, là d'ailleurs, la voix de Cécilia Bartoli, Dominique Stalder qui est en face de moi, dans la régie, qui s'occupe ici de la technique, comme chez vous, Alexandre Lemierre. Et ben, elle l'a tout de suite reconnu. En deux mesures, elle a dit « Ah, c'est Bartoli ».
Ah oui. Vous voyez, ah oui, c'est immédiat. Mm-hmm.
Moi je le savais, donc j'avais la feuille devant les yeux, donc il n'y a pas eu de surprise pour moi, mais c'est vrai que pour Dominique.
C'est immédiat parce que vous entendez, c'est ça avec les grands musiciens, comme Gould ou d'autres, vous entendez tout de suite ce qu'est une note. Et une note, c'est un monde, et alors enchaîner avec cette virtuosité extraordinaire, parce qu'il faut comprendre quand est-ce qu'elle respire, on ne sait plus. Mm-hmm. Et c'est ça qui est beau, je vous parlais du corps. Qui sombre dans la routine et qui ne voit plus rien, qui n'entend plus rien, qui ne lit plus rien. Là, c'est le contraire, c'est l'antidote. Et elle a un corps angélique et d'une grande, grande cruauté, si on peut dire. Mm-hmm. C'est parce que c'est très. Elle peut chanter de catastrophe, et puis elle passe au mouvement lent où vous êtes tout à coup bercé dans une sorte de sommeil, de rêve. Bon, ça c'est le génie. Qu'est-ce que vous voulez? Il y en a une au moins. J'ai été content de la rencontrer. On a beaucoup parlé ensemble et vraiment c'est quelqu'un de très très fin, très fin.
Les voix peuvent toucher, on l'a entendu avec Cécilia Bartoli. Je parie qu'avec celle-là, ça sera à peu près pareil.
Le lecteur, maintenant, pour un certain nombre d'entre nous, n'est plus comme avant celui qui, à la limite, se projetait en tant que personne, en tant que subjectivité, dans le livre qu'il lisait. Le lecteur, c'est quelqu'un, au fond, qui est amené par le texte à écrire lui-même, à réécrire lui-même le texte qui a été écrit. C'est-à-dire, en quelque sorte, à l'incorporer à son propre corps. Celui qui écrit, écrit bien sûr avec son corps, même si ce corps est médiatisé par un stylo bille ou même une machine à écrire, c'est tout de même le corps qui écrit. Et par conséquent, on attend maintenant de plus en plus du lecteur qu'il ne se contente pas de projeter sa subjectivité, n'est-ce pas, dans le livre, dans le texte, mais, si vous voulez, de retrouver les mouvements corporels, les pulsions, les désirs, tout cet érotisme des mots, n'est-ce pas, qui est incontestable, de le retrouver quand il lit. Alors évidemment, ça ne se produit que pour certains textes. Dans certains textes, il y a un énorme déchet, mais enfin, c'est pour cela que la partie est intéressante à jouer.
Quelle belle voix, hein, Philippe
Seller. Roland Barthes.
Eh oui, Roland 1973.
Barthes, lui aussi, on le reconnaît tout de suite.
Oui, il a une voix très caractéristique.
Eh oui, absolument. C'est un grand, grand ami. Ça a été un des grands chagrins de ma vie lorsqu'il a été renversé par une voiture en plein Paris et qu'il est mort assez vite. Et donc, nous avons là aussi une amitié. Je vous signale que Barthes, là, est en pleine utopie. Il imagine qu'il y aura un lecteur encore. Mm-hmm. Hélas, hélas, hélas. je pense que ce lecteur rêvé aura de moins en moins de chances d'exister, ce qui est d'ailleurs une chance étonnante. Je vous parlais de Montaigne, mais Montaigne s'est rendu compte qu'on changeait d'air, qu'on changeait de civilisation. Il voulait, et à 12 ans, quand j'ai été voir la tour de Montaigne, avec ce que j'ai vu, les inscriptions qu'il avait tracées sur les poutres, en latin, en grec, il avait peur que tout ça disparaisse. Nous en sommes de nouveau là, dans une autre époque. Et donc, cette utopie est menacée. Vous allez avoir l'année prochaine toute une année consacré au centenaire de la naissance de Roland Barthes. Vous entendrez beaucoup parler de Roland Barthes et il y aura une réédition du livre qu'il a eu la très grande gentillesse de publier en resserrant quelques articles qu'il avait écrits sur moi, qui s'appelle Solaire s'écrivain. Et donc, j'ai fait un livre qui paraîtra aux éditions du Seuil l'année prochaine, et que j'ai appelé L'amitié de Barthes, parce que c'était vraiment un merveilleux ami. Et l'amitié, vous savez, c'est aussi Montaigne, la Boétie, etc. Les gens qui étaient amis et qui étaient en même temps dans un dialogue. Mmh. Tout ceci, étant donné la bestialité, la dévastation qui est en cours, j'ai pas besoin de vous citer les atrocités qui ont lieu en ce moment même sur la planète, ou enfin la surdité, le blocage généralisé, la misère, pour dire les choses comme elles sont, que vous voyez, il suffit d'ouvrir les yeux. Bon, donc là, toutes ces voix sont émouvantes et je vous remercie énormément de les avoir fait entendre.
Comment vous l'avez rencontré, Roland Barthes ?
Barthes était venu à une conférence quelque chose que Ponge donnait. Il était là et on s'est rencontrés par la suite et on a tout de suite sympathisé plus. Fraterniser d'une certaine façon. C'est la raison pour laquelle j'étais en charge d'une collection de la revue telle qu'elle, où j'ai publié ses premiers livres, et très très longtemps. Donc ça veut dire tout simplement qu'il avait trouvé un lecteur, comme il l'appelle. Je publierai des lettres inédites où il était extrêmement content de ce que je lui ai
témoigné. De la manière dont vous le lisiez, c'est ça ?
Oui, voilà, c'est ça.
Vous le lisiez comme il le disait ?
Il me donnait un livre sur Balzac, je l'imprimais, mais je lui faisais des remarques. Il était ravi d'avoir un lecteur. J'étais le lecteur préféré de Barthes.
Est-ce que ça collait avec sa théorie, justement, de comment le lecteur doit... Oui, c'est vrai. Est-ce que ça collait avec la théorie qu'on entendait là dans cet archive, de dire que le lecteur doit deviner les mouvements du corps ? Vous parliez de corps, vous aussi.
Oui, vous avez vu, mais c'est ça. Tous ces... c'est très curieux que le mot corps revienne à ce point dans les propos que nous entendons ou que je maintiens à propos de Bartoli ou de Ponge ou d'autres. Le corps. Qu'est-ce qui est en train de vous priver de votre corps ? Voilà une question. Parce que un corps, c'est beaucoup de choses. C'est la vue, c'est l'ouïe, c'est le toucher, c'est les cinq sens. Qu'est-ce que devient votre corps dans, encore une fois, le bavardage général et politique, la politicaillerie qui vous fait perdre un temps fou si vous la suivez. Il faut voir les commentateurs rivés à leurs commentaires et qui ne savent plus quoi dire, enfin qui sont obligés de tourner en rond comme ça devant vous. Voilà, c'est très intéressant à suivre. Mais enfin, c'est une mécanisation générale ou qui vous prive de votre corps, qui vous prive de votre mémoire, de vos souvenirs, de vos mots. Et c'est pour ça que Barthes est très étonnant. Là. Il souhaite un lecteur. Eh ben, nous sommes en train d'espérer que ça aura encore lieu.
Rassurez-moi, voilà. Ils existent encore, ces lecteurs-là, Philippe Solaire.
Je suis bien placé pour vous dire que je connais très bien tous les dessous de l'édition, etc. Que la ruée vers le numérique, la ruée vers les tablettes, c'est pas forcément la lecture. J'ai un ami qui me dit bon, c'est bien, j'ai tout Proust. Je vais en Chine et je vais lire Proust dans l'avion. Évidemment, il arrive en Chine, il n'a pas lu Proust dans l'avion sur sa tablette, il a oublié. Ou alors plutôt, et c'est ça qui est plus grave, il pense que c'est à sa disposition, qu'il pourrait lire s'il voulait. Voilà. Donc, ça n'est pas... Pour ça, c'est une appropriation extrêmement sensuelle, la lecture. C'est le papier, c'est le retour en arrière, c'est le temps dont on dispose. Alors, si plus personne n'a le temps, les journalistes littéraires n'ont plus le temps, plus personne n'a le temps, voilà, tout ça circule à toute allure. Et à ce moment-là, vous perdez votre corps, petit à petit, sans vous en rendre compte. Vous êtes privé de sensations. Des mots oubliés, c'est des sensations qui disparaissent. Vous êtes réduit à la communication. Hein, tout le monde communique. SMS, texto, tout ça est très bien. Moi, je suis très bien dans la technique. Je ne parle pas contre la technique. On peut s'en servir et rester vivant. mais il y a beaucoup de morts à prévoir dans cette affaire.
Sur ce chemin-là. Oui, Philippe Solers. Vous avez dit de Roland Barthes que sa voix vous manquait. Alors, on vient de l'entendre, on peut bien sûr la réentendre sur les nombreux enregistrements. Mais qu'est-ce qu'il vous a appris? Et qu'est-ce qui vous manque de lui aujourd'hui, à part sa voix?
L'amitié. L'amitié, c'est-à-dire quelqu'un de très civilisé, de très attentif, de très précis dans sa formulation, avec une très belle écriture graphique. C'était quelqu'un, vous comprenez, c'est le savoir-vivre de certaines personnes qui me manquent. Le savoir-vivre, c'est fait de beaucoup, beaucoup d'attention à tout. Barthes allumant un cigare, par exemple, c'était intéressant. On sentait qu'il aimait allumer son cigare. Vous voyez? Et Ponge en train d'écouter du Rameau, c'était aussi très intéressant parce qu'il écoutait très attentivement. Son décor, nous parlons de corps, qu'est-ce que c'est qu'un corps qui est en alerte, qui est à l'écoute et qui, et avec qui parler ne veut pas rien dire. Vous comprenez, un de mes meilleurs souvenirs, c'est j'allais chercher Lacan chez lui après ses séances de psychanalyse. Nous allions dîner, il m'a emmené dîner plutôt en face de chez lui, en m'offrant du champagne rosé. Et puis, avec Lacan, parce qu'il était le psychanalyste qu'il était, il ne disait jamais de clichés. La conversation n'était jamais vide. Parler avait un sens, c'est-à-dire si j'énonce quelque chose, il va l'écouter d'une certaine façon, ça va rebondir d'une autre façon. Voilà, c'est ça la civilisation, vous savez, dans ton risque d'être privé, et ça s'est vu. Il y a eu des dictatures absolument sanglantes au XXe siècle, je ne vais pas vous les rappeler, et d'ailleurs, rien ne dit qu'elles peuvent disparaître. Mmh. Elles sont encore au travail, dans le fanatisme religieux, etc. Enfin, vraiment, vous ouvrez l'actualité, vous êtes servi, c'est
en tête. On a l'embarras du choix, si j'ose dire.
Oui, c'est ça. Donc, voilà, c'est ce qui me manque, en fait, c'est... Mais bon, j'ai heureusement épousé une femme qui elle-même est désormais psychanalyste, elle est écrivain aussi, et donc on peut parler, vous voyez, c'est ça. Mais elle me dit, et ça m'impressionne beaucoup, elle ne me parle pas des cas qu'elle a sur place, dans son travail d'analyste, mais elle me dit souvent que les patients et les patientes qu'elle reçoit se plaignent de ne pas pouvoir mémoriser les pages qu'ils viennent de lire, ou ne fût-ce qu'un paragraphe. Attention, il y a une lésion qui est en train de s'opérer sur l'être humain à partir d'une sorte d'automatisation de la vie et de la perte du temps.
Vous lisez dans mes pensées, Philippe Solers, parce que vous avez parlé de Lacan. Je venais d'ouvrir votre livre pour lire un dernier extrait qui est le cigare de Freud. Vous voyez que, apparemment, le courant passe. Je voulais vous citer cette phrase de Freud. Je suis sûre que vous la connaissez, qui dit parfois un cigare est juste un cigare.
Oui, oui. Déjà. Lui, alors, il a eu un cancer de la mâchoire, d'ailleurs.
Oui, exact. Alors, voilà le paragraphe sur Freud, et puis ensuite, on se dira au revoir, parce que nous sommes déjà à la fin de cette émission, Philippe Solers. Voilà ce que vous dites sur
Comment
Freud.
Déjà ?
Mais oui. La purification du passé sera une longue marche. Déjà, pour l'exposition Sartre à la BNF, il avait fallu effacer dans une photo le mégot qu'il tenait entre ses doigts.
Ah, oui.
Mais je m'offusque aujourd'hui qu'on célèbre la mémoire de Freud de voir reparaître les clichés où il pose en bourgeois satisfait avec un cigare. Ce cigare est arrogant, nanti, dogmatique, réactionnaire, suspect, phallocratique, machiste, malsain. On devrait le faire disparaître. Mauvaise influence. Lacan lui-même n'arrêtait pas, avec désinvolture, de mâchonner des cigares tordus. Ah, il faut se méfier de la psychanalyse. Et c'est vous qui dites ça, marié à une psychanalyste, Philippe Solers.
Oui. Écoutez, l'éradication de la cigarette dans les photographies, c'est fabuleux. Donc, vous vous rendez compte de ce que devient, dans les films, si on commence à faire ça, vous vous rendez compte de ce que devient Humphrey Bogart,
eh oui,
par exemple, qui n'arrête pas de cloper,
et Lucky
etc.
Luke,
donc,
fait,
mais oui. on supprime les mégots, il y a Malraux. Mmh. Alors, il y a des photos qui vont disparaître. Et qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'était des criminels, puisqu'ils ils souillaient l'atmosphère, ils faisaient disparaître les spermatozoïdes. Enfin, voilà, c'était.
Eh bien, résistez, Philippe Solers, résistez.
Connu.
Et continuez d'écrire.
Fumez-tu.
Vous résistez, vous continuez d'écrire et vous attendez les lecteurs. Littérature et politique, il y en aura certainement des lecteurs. Soyez, ayez de l'espoir. C'est paru chez Flammarion. Et puis le Dictionnaire amoureux de Venise, version illustrée et abrégée du Dictionnaire amoureux qui était paru il y a quelques années. Ça aussi, c'est chez Plon et Flammarion. Merci beaucoup, Philippe Solers.
Merci à vous, Mélanie.
Au revoir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Dominique Stalder était en régie et à la réalisation des archives. Monique Cortési est notre assistante de production. Nathalie Schoenberg choisit les musiques de l'émission. Dani Sulam, elle s'occupe de notre page internet rts.ch/entre-nous-soit-dit. En un seul mot, n'hésitez pas à aller télécharger les émissions, nous écrire. Il y a aussi un lien avec notre page Facebook si vous voulez. Juste après les informations, vous avez rendez-vous avec Madeleine Caboche dans des tours. Et puis demain, Christophe Galla sera avec moi ici. Très bon après-midi, il est 15h.